Chapitre 6. Le partage capital-travail au XXIe siècle. Nous comprenons maintenant assez bien la dynamique du rapport capital-revenu telle que décrite par la loi bêta égale S sur G. Le rapport capital-revenu de long terme dépend notamment du taux d'épargne S et du taux de croissance G. Ces deux paramètres macro-sociaux dépendent eux-mêmes de millions de décisions individuelles influencées par de multiples considérations sociales, économiques, culturelles, psychologiques, démographiques et peuvent fortement varier dans le temps et entre pays. Ils sont en outre largement indépendants l'un de l'autre. Tout cela permet de mieux comprendre les fortes variations historiques et spatiales du rapport capital-revenu sans même prendre en compte le fait que le prix relatif du capital peut lui aussi beaucoup varier, dans le court terme, mais aussi dans le long terme, de même que celui des ressources naturelles. Du rapport capital-revenu au partage capital-travail. Il nous faut maintenant passer de l'analyse du rapport capital-revenu à celle du partage du revenu national entre travail et capital. La formule alpha égale R multiplié par bêta, baptisée première loi fondamentale du capitalisme dans le chapitre 1, permet de passer de façon transparente de l'une à l'autre. Par exemple, si la valeur du stock de capital est égale à 6 années de revenu national, bêta égale 6, et si le taux de rendement moyen du capital est de 5% par an, R égale 5%, alors la part des revenus du capital alpha dans le revenu national est égale à 30%, et celle des revenus du travail est donc égale à 70%. La question centrale est donc la suivante. Comment est déterminé le taux de rendement du capital? Commençons par examiner brièvement les évolutions observées sur très longues périodes, avant d'analyser les mécanismes théoriques et les forces économiques et sociales en jeu. Les deux pays pour lesquels nous disposons des données historiques les plus complètes depuis le XVIIIe siècle sont de nouveau le Royaume-Uni et la France. On observe la même évolution générale en forme de U pour la part du capital alpha que pour le rapport capital-revenu bêta, mais de façon moins marquée. Autrement dit, le rendement du capital R semble avoir atténué l'évolution de la quantité de capital bêta. Le rendement R est plus élevé dans les périodes où la quantité bêta est plus faible, et inversement, ce qui paraît naturel. Plus précisément, on constate au Royaume-Uni comme en France que la part du capital était de l'ordre de 35-40% du revenu national à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, avant de tomber à environ 20-25% au milieu du XXe siècle, puis de remonter vers 25-30% à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Voir graphique 6.1-6.2. Cela correspond à un taux de rendement moyen du capital qui se situe aux environs de 5-6% au XVIIIe et XIXe siècle, avant de monter jusqu'à 7-8% au milieu du XXe siècle, puis de tomber vers 4-5% à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Voir graphique 6.3-6.4. La courbe d'ensemble et les ordres de grandeur que nous venons d'indiquer peuvent être considérés comme fiables et significatifs, au moins en première approximation. Il convient cependant d'en souligner immédiatement les limites et les fragilités. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà noté, la notion même de taux de rendement moyen du capital est une construction relativement abstraite. En pratique, le taux de rendement varie fortement suivant les types d'actifs et également suivant la taille du patrimoine individuel. Il est généralement plus facile d'obtenir un bon rendement lorsqu'on part d'un capital élevé, jouant par là même un rôle amplificateur sur les inégalités, comme nous le verrons dans la troisième partie. Concrètement, le rendement des actifs les plus risqués, à commencer par le capital industriel, qu'ils prennent la forme de parts nominatives dans des fabriques familiales au XIXe siècle ou d'actions anonymes dans des sociétés cotées au XXe siècle, dépasse souvent les 7-8%, alors que celui des actifs moins risqués est sensiblement plus faible, par exemple de l'ordre de 4-5% pour les terres agricoles au XVIIIe et XIXe siècle, voire 3-4% pour l'immobilier en ce début de XXIe siècle. Pour les tout petits patrimoines, détenus sur des comptes chèques ou des comptes d'épargne peu rémunérateurs, le taux de rendement réel est souvent plus proche de 1-2%, voire négatif, quand l'inflation est supérieure au maigre taux d'intérêt nominal versé. Il s'agit d'une question cruciale sur laquelle nous reviendrons amplement par la suite. À ce stade, il est important de préciser que les parts du capital et les taux de rendement moyen indiqués sur les graphiques 6.1-6.4 ont été calculés en additionnant l'ensemble des revenus du capital répertoriés dans les comptes nationaux, quel que soit leur intitulé juridique, loyers, profits, dividendes, intérêts, royalties, etc., à l'exception des intérêts de la dette publique et avant toute forme d'imposition. Puis, en divisant cet agrégat par le revenu national, on obtient alors la part du capital dans le revenu national, noté alpha, et par le capital national. On obtient ainsi le taux de rendement moyen du capital, noté R. Par construction, ce taux de rendement moyen agrège donc les rendements d'actifs et de placements très différents. L'objectif est précisément de savoir combien rapporte en moyenne le capital dans une société considérée dans son ensemble, par-delà les différences de situation individuelle. Évidemment, certaines personnes obtiennent mieux que ce rendement moyen et d'autres obtiennent moins bien. Avant d'étudier la répartition du rendement individuel autour du rendement moyen, il est naturel de commencer par analyser où se situe cette moyenne. Les flux, plus difficiles à estimer que les stocks. Précisons également qu'une limite importante de ce type de calcul concerne les revenus des travailleurs non salariés, au sein desquels il est souvent difficile d'isoler la rémunération du capital. Ce problème est certes moins important aujourd'hui que par le passé, car l'essentiel de l'activité économique privée est maintenant organisé dans le cadre de sociétés anonymes, ou plus généralement de sociétés de capitaux, c'est-à-dire de sociétés où l'on sépare clairement les comptes de l'entreprise et les comptes des personnes qui ont apporté les capitaux, et qui ne sont d'ailleurs engagés qu'à hauteur de leur apport en capital et non plus sur leurs deniers personnels. C'est la révolution de la « société à responsabilité limitée », engagée un peu partout à la fin du XIXe siècle, et où l'on distingue nettement la rémunération du travail, salaire, primes et autres paiements versés à tous ceux qui ont apporté leur travail, y compris les cadres dirigeants, et la rémunération du capital, dividendes, intérêts, profits réinvestis pour accroître la valeur du capital, etc. Il en va différemment dans les sociétés de personnes, et en particulier dans les entreprises individuelles, dont les comptes de la société se confondent parfois avec les comptes personnels du chef d'entreprise, qui est souvent à la fois le propriétaire et l'exploitant. Actuellement, environ 10% de la production intérieure dans les pays riches est réalisée par des travailleurs non salariés au sein d'entreprises individuelles, ce qui correspond approximativement à la part des non-salariés dans la population active. Les travailleurs non-salariés sont notamment regroupés dans de petites entreprises de services, commerçants, artisans, restaurateurs, etc., et au sein des professions libérales, médecins, avocats, etc. Pendant longtemps, cela concernait aussi un grand nombre d'exploitants agricoles qui ont aujourd'hui largement disparu. Dans les comptes de ces entreprises individuelles, il est généralement impossible d'isoler la rémunération du capital. Par exemple, les bénéfices d'un radiologue rémunèrent à la fois son travail et les équipements parfois très coûteux qu'il a dû acquérir. Il en va de même pour l'hôtelier ou l'exploitant agricole. C'est pourquoi on parle de revenus mixtes. Les revenus des travailleurs non salariés sont à la fois des revenus du travail et des revenus du capital. On pourrait ainsi parler de revenus entrepreneurial. Afin de répartir les revenus mixtes entre capital et travail, nous avons utilisé la même répartition moyenne capital-travail que pour le reste de l'économie. C'est la solution la moins arbitraire, et elle semble donner des résultats proches de ceux obtenus avec les deux autres méthodes généralement utilisées. Mais cela reste une approximation, puisque par construction, la notion même de frontière entre revenus du capital et du travail n'est pas bien définie au sein des revenus mixtes. Pour la période actuelle, cela ne fait pas beaucoup de différence. Compte tenu du faible poids des revenus mixtes, l'incertitude sur la véritable part du capital ne porte tout au plus que sur 1% ou 2% du revenu national. Pour les périodes plus anciennes, et en particulier pour le XVIIIe et le XIXe siècle, où les revenus mixtes pouvaient représenter plus de la moitié du revenu national, les incertitudes sont potentiellement beaucoup plus importantes. C'est pourquoi les estimations de la part du capital disponible pour les XVIIIe et XIXe siècles ne peuvent être considérées que comme des approximations. Cela ne semble toutefois pas pouvoir remettre en cause le très haut niveau des revenus du capital que nous avons estimé pour cette période, au moins 40% du revenu national. Au Royaume-Uni comme en France, la rente foncière versée aux propriétaires terriens représentait à elle seule de l'ordre de 20% du revenu national au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Et tout laisse à penser que le rendement des terres agricoles, environ la moitié du capital national, était légèrement inférieur au rendement moyen du capital et nettement inférieur au rendement du capital industriel, si l'on en juge par le très haut niveau des profits industriels, en particulier pendant la première moitié du XIXe siècle. Mais les imperfections des données disponibles font qu'il est préférable de donner un intervalle entre 35 et 45% plutôt qu'une seule estimation. Pour le XVIIIe et le XIXe siècle, les estimations de la valeur du stock de capital sont probablement plus précises que celles portant sur les flux de revenus du travail et de revenus du capital. Dans une large mesure, il en va de même aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons choisi, dans le cadre de notre enquête, de mettre l'accent sur l'évolution du rapport capital-revenu et non sur le partage capital-travail, comme cela a été fait plus classiquement dans la recherche économique. La notion de rendement pur du capital. L'autre source importante d'incertitude, qui nous conduit à penser que les taux de rendement moyen indiqués sur les graphiques 6.3-6.4 sont quelque peu surestimés, et à indiquer également ce que l'on peut appeler des taux de rendement pur du capital, provient du fait que les comptes nationaux ne cherchent pas à prendre en compte la réalité suivante. Le placement d'un capital requiert en général un minimum de travail, ou au moins d'attention, de la part de son détenteur. Certes, les coûts de gestion et d'intermédiation financière formelle, c'est-à-dire les services de conseil ou de gestion de portefeuille assurés par une banque ou une institution financière officielle, ou bien par une agence immobilière ou un syndic de copropriété, sont évidemment pris en compte et sont toujours déduits des calculs des revenus du capital et du taux de rendement moyen, tels que ceux présentés ici. Mais il n'en va pas de même de l'intermédiation financière informelle, c'est-à-dire le fait que chacun passe du temps, parfois beaucoup de temps, à gérer son propre portefeuille et ses propres affaires, et à déterminer quels sont les investissements les plus profitables. Cela peut s'apparenter, dans certains cas, à un véritable travail entrepreneurial, ou plutôt un travail d'homme d'affaires. Il est certes très difficile, et en partie arbitraire, de calculer précisément la valeur de ce travail informel, ce qui explique cet oubli des comptes nationaux. Il faudrait en principe mesurer le temps passé et lui attribuer une valeur horaire, par exemple en se fondant sur la rémunération d'un travail équivalent dans le secteur financier ou immobilier formel. On peut aussi imaginer que ces coûts informels sont plus importants dans des périodes de très forte croissance économique ou d'inflation élevée, car de telles périodes exigent sans doute de plus fréquentes réallocations de portefeuille et davantage de temps passé à chercher les meilleures opportunités d'investissement que dans une économie en quasi-stagnation. Par exemple, il est difficile de considérer les rendements moyens de l'ordre de 10% observés en France et à un degré légèrement moindre au Royaume-Uni pendant les périodes de reconstruction faisant suite à chacune des deux guerres mondiales. De tels niveaux sont également observés dans des pays émergents en très forte croissance, comme en Chine aujourd'hui, comme un rendement pur du capital. Il est probable que de tels rendements incluent une part non négligeable de rémunération d'un travail informel de type entrepreneurial. À titre illustratif, nous avons indiqué sur les graphiques 6.3-6.4 des estimations pour le Royaume-Uni et la France du rendement pur du capital aux différentes époques, obtenu en déduisant du rendement moyen observé une estimation plausible, quoique peut-être un peu trop élevée, des coûts informels de gestion, c'est-à-dire de la valeur du temps de travail passé à gérer son patrimoine. Les taux de rendement pur ainsi obtenus sont généralement de l'ordre de 1 ou 2 points plus bas que les taux moyens observés et doivent sans doute être considérés comme des valeurs minimales. En particulier, les données disponibles sur les taux de rendement effectivement obtenus par niveau de fortune, et que nous examinerons dans la troisième partie, suggèrent qu'il existe des économies d'échelle importantes dans la gestion des patrimoines, et que le rendement pur obtenu par les patrimoines les plus importants est sensiblement plus élevé que les niveaux indiqués ici. Le rendement du capital dans l'histoire. La principale conclusion qui ressort de nos estimations est la suivante. En France comme au Royaume-Uni, du XVIIIe au XXIe siècle, le rendement pur du capital a oscillé autour d'une valeur centrale de l'ordre de 4%, 5% par an, ou plus généralement dans un intervalle compris entre 3% et 6% par an. Il n'existe pas de tendance massive dans le long terme, ni à la hausse, ni à la baisse. Le rendement pur a nettement dépassé 6% à la suite des fortes destructions et des multiples chocs subis par le capital au cours des guerres du XXe siècle. Mais il est revenu assez rapidement vers les niveaux plus faibles observés dans le passé. Il est possible que le rendement pur du capital ait toutefois légèrement baissé sur très longues périodes. Il dépassait souvent les 4-5% au XVIIIe et XIXe siècle, alors qu'en ce début de XXIe siècle, il semble se rapprocher de 3%-4% à mesure que le rapport patrimoine-revenu retrouve ses niveaux élevés observés dans le passé. Nous manquons cependant de recul pour juger pleinement de ce dernier point. On ne peut exclure que le rendement pur du capital s'apprête à retrouver dans les décennies qui viennent des niveaux plus élevés, compte tenu notamment de la concurrence croissante entre pays pour attirer les capitaux, et de la sophistication également croissante des marchés et institutions financières pour générer des rendements élevés à partir de portefeuilles complexes et diversifiés. En tout état de cause, cette quasi-stabilité du rendement pur du capital sur très longue période, ou plus probablement cette légère baisse d'environ un quart ou un cinquième, de 4%-5% au XVIIIe et XIXe siècle, à 3-4% aujourd'hui, constitue un fait majeur pour notre enquête, sur lequel nous allons abondamment revenir. Afin de mettre ces chiffres en perspective, rappelons tout d'abord que le taux de conversion traditionnel entre capital et rente au XVIIIe et XIXe siècle, pour les formes de capital les plus répandues et les moins risquées, typiquement des terres ou de la dette publique, est généralement de l'ordre de 5% par an. La valeur d'un capital est estimée à environ 20 années de revenus annuels rapportés par ce capital. Cette valeur de référence est parfois estimée à 25 années, ce qui correspond alors à un rendement de 4% par an. Dans le roman classique du début du XIXe siècle, notamment chez Balzac ou Jane Austen, cette équivalence entre capital et rente annuelle, par le truchement d'un taux de rendement de 5%, ou plus rarement 4%, est une évidence absolue. Il arrive d'ailleurs fréquemment que les romanciers omettent de signaler la nature du capital, et en particulier l'importance prise par les deux substances assez différentes que sont la terre et la dette publique, considérées parfois comme des substituts quasi parfaits, et se contentent d'indiquer le montant de la rente annuelle produite. On nous informe par exemple que tel grand personnage dispose de 50 000 francs ou de 2 000 livres sterling de rente, sans préciser s'il s'agit de rente foncière ou de rente sur l'État. Qu'importe, puisque le revenu est sûr et régulier dans les deux cas, et permet de financer de façon durable un train de vie bien précis, et de reproduire dans le temps un statut social connu et parfaitement répertorié. De même, Austin, comme Balzac, juge souvent inutile de préciser le taux de rendement permettant de transformer un capital en rente annuelle. Chaque lecteur sait bien qu'il faut un capital de l'ordre de 1 million de francs pour produire une rente annuelle de 50 000 francs, ou un capital de 40 000 livres pour produire une rente annuelle de 2 000 livres, que le placement se fasse en titres de dette publique, en terres agricoles ou sous une autre forme. Pour les romanciers du XIXe siècle, comme pour leurs lecteurs, l'équivalence entre patrimoine et rente annuelle est une évidence, et l'on passe en permanence d'une échelle de mesure à l'autre, sans autre forme de procès, comme si l'on utilisait des registres de synonymes parfaits, ou deux langues parallèles connues de tous. Il est tout aussi évident dans ces romans qu'il existe des placements qui demandent un investissement personnel plus important, qu'il s'agisse des fabriques de pâtes du père Goriot ou des placements antillais de Sir Thomas dans Mansfield Park, et qui fort naturellement rapportent des rendements plus élevés. De tels placements peuvent typiquement permettre d'obtenir des rendements de 7-8%, voire davantage lorsqu'on fait de très bonnes affaires, comme l'espère César Birotteau, avec sa juteuse opération immobilière du quartier de la Madeleine, après ses premiers succès obtenus dans la parfumerie. Mais il est également parfaitement clair pour tous qu'une fois déduit le temps et l'énergie passés à organiser ses affaires, Sir Thomas passe de longs mois dans les îles, le rendement pur finalement obtenu n'est pas toujours beaucoup plus avantageux que les 4-5% obtenus par les placements sur la terre et la dette publique. Autrement dit, le rendement supplémentaire correspond pour une large part à la rémunération du travail apporté dans l'affaire, et le rendement pur du capital, y compris en incluant la prime de risque, n'est généralement pas beaucoup plus élevé que 4-5%, ce qui d'ailleurs n'est déjà pas si mal.